bienvenue à On est tous debout en retard. Ça commence tout de suite.
En semaine 5h25,
écoutez On est tous debout
avec Émilie Gagné et Jerry Castonguay.
En direct sur l'application iHeartRadio,
à rougefm.ca
et au 102.9 Rouge.
Rouge!
C'est un quiz télévisé à la radio. On cherche pas des réponses à mes questions, on cherche des questions à mes réponses. On fait tout à l'envers durant le quiz. Géopardy! On accueille nos deux participants ce soir. Elle est affectée par la grisaille, Émilie Gagné. Bonsoir.
Bonsoir.
Et lui n'est pas affecté par la grisaille parce qu'il grisonne depuis un certain temps, Martin Brassard. Bonsoir.
Le gris, je connais ça.
Alors, le pointage est rendu à 27 pour Émilie et 6 pour Martin.
Je m'en viens comme un train.
Écoute, calcul rapide, si tu fais 4 points, là, tu tombes à 10, tu doubles, ça fait 20.
Je m'approche.
C'est impossible de
non, doubler. Mais, non, mais pour y faire peur un peu, là.
Ça j'ai très peur, je suis terrorisée. Oh.
Les catégories du choix.
Oui.
T'es time. Quick, quick. Penche-toi. Et mon beau lingot. Hey, j'ai chanté pour mes thèmes, c'est quelque chose. Excusez.
Je vais y aller avec penche-toi.
Penche-toi, OK.
Penche-toi.
Ça m'intrigue.
Pour 4
points. Oh, pas de facile.
Oh, non, non, non.
Vous croyez avoir la bonne question à ma réponse, vous dites votre prénom pour avoir le droit de parole. Dans le domaine de la construction,
oh non.
C'est un espace accessible ou non, situé entre le sol et le premier plancher du bâtiment.
Émilie? Qu'est-ce que le sous-sol?
Ce n'est pas une bonne réponse.
C'est que tu as dit, Émilie, mais là...
Le sous-sol?
C'est entre le sous-sol et le premier étage qu'il a dit, me semble.
Non, mais non, il a dit entre le sol et le premier étage.
Attention, je vais répéter la question pour Martin.
Ouais.
Et chaque élément de la question est important.
Okay.
Bon, c'est dans le domaine de la construction, ça va. C'est un espace accessible ou non?
OK, ça peut être accessible comme ça peut pas l'être.
Exact.
Okay.
Situé entre le sol et le premier plancher du bâtiment.
Dans le sol...
C'est le sous-sol?
Non, accessible ou non, un sous-sol.
C'est pas toujours accessible, un sous-sol?
Ben non, un sous-sol, c'est toujours accessible.
Ah. C'est le footing. Qu'est-ce que le footing?
Le footing?
Ce n'est pas la bonne réponse. En français, c'est solage ou semelle.
Ah, OK.
Mais non, c'est
non,
pas
c'est
la,
quoi?
La réponse que je cherchais. La question que je cherchais, c'est qu'est-ce qu'un vide sanitaire?
Oh.
Parce qu'un vide sanitaire peut être accessible et peut ne pas être accessible. Un sous-sol est toujours accessible.
Mais qu'est-ce qu'un vide sanitaire?
Ben, c'est l'espace entre le sol et le premier plancher
mais
d'un
encore.
Bâtiment.
OK.
Alors,
tout ça, toi,
tout le monde
vide
parle?
Sanitaire?
Moi, j'ai un sous-sol.
J'ai aucune idée si
bon,
j'ai
ça.
Je pense pas.
C'est ça.
Moi,
tu m'as une question dans ma tête. On a-tu de l'air à des... En tout cas.
Moi, mon vide sanitaire est dans mes culottes.
Bon.
Oh, si. Oh non, non. Passe la toune. Passe la toune.
C'est un vide ou un plein, ça
passe dit ça. La toune. La toune, please. Ouais. Please.
Oh. Écoute, fallait que je l'exorcise. J'avais ça en tête depuis tantôt. En 2021, sommes-nous devenus trop précieux? Parce que quand on regarde dans le passé, il me semble que quand on était enfant, on jouait avec des affaires qui, aujourd'hui, ont juste pas de mon juste de bon sens, tu sais. Y a des jouets qui ont très mal vieilli et qui, aujourd'hui, seraient considérés comme des véritables dangers. Puis c'est quelque chose sur quoi je suis tombé au courant des derniers jours sur Internet. C'est le site Internet Reddit. C'est un forum de discussion avec des sujets de discussion qui deviennent tendance ou pas, okay, selon le nombre d'interactions qu'il y a. Puis le sujet de discussion, c'était ces jouets de notre enfance qui sont rendus dangereux aujourd'hui.
Intéressant.
Alors, il y a plein de gens qui se sont rappelés plein de souvenirs de leur enfance. Puis, il faut que je vous en parle. Il y en a un qui dit, hey, puis c'est des affaires qui n'ont pas d'allure. Dans les années 70, j'allais voir mon dentiste, puis il m'a parlé d'un métal, parce qu'il me faisait un plombage, il m'a parlé d'un métal très, très lourd, c'était du mercure, puis il en avait dans son bureau, puis il m'a laissé une fiole de mercure pour que j'aille montrer ça à mes amis à l'école. Mais tu sais, du mercure, c'est hautement toxique. Fait que tu sais, t'as le dentiste dans ce temps-là qui donne ça à un enfant. C'est ce que je veux dire.
Ça n'a aucun bon sens.
C'est malade. Cette personne, si un dentiste faisait ça en 2021, elle serait radiée instantanément. Là. C'est malade, mais autre époque, autre mœurs.
Ouais, ouais,
il y a quelqu'un d'autre qui écrit, on avait un jeu pour jouer dans le jardin, c'était des fléchettes qu'on envoyait dans les airs et on visait un cercle. Mais tu sais, ça rentrait dans le gazon. Mais je veux
dire, pointu, ça.
C'est dangereux, tasse-toi de là. C'est quelque chose.
Je me rappelle avoir joué à ça, ouais.
Ah oui, puis le pire, c'est que c'est le fun. C'est ça qui arrive. C'est juste que là, on est loin du jeu des washers au niveau de la dangerosité. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, dans les années 60, là, c'est une personne un peu plus âgée, mon oncle avait cherché pour une recette pour faire de la gunpowder, de la poudre à fusil, tu sais, de la poudre explosive. Puis il y avait la recette au complet, puis l'enfant, lui, était trop intéressé par ça. Il avait pris la liste des ingrédients, il était allé à la pharmacie.
Il avait fait
son emplette, là, puis il avait demandé au pharmacien de sortir les ingrédients, puis le pharmacien était comme, ben oui, pas de trouble.
On avait ça, des fusils à pétards, là.
Les pétards, t'as raison.
Ben oui.
Hey, puis les rondelles, là, avec des pétards, aujourd'hui, ça se vend plus, ça.
Ça se vend plus, ben, je sais pas.
Je le sais pas. En tout cas, il y avait des pétards à mèche, également. Mm-hmm. Puis ça revient aussi dans les jouets. Y a quelqu'un qui écrit « Dans le temps, les glissades étaient en métal. Durant des belles grosses journées d'été, ça devenait brûlant,
c'est
mais
vrai.
On glissait pareil. »
C'est vrai!
Ça, c'était...
Mais je pense que le plus grand changement, ça se passait dans les cours d'école.
Ah, certainement! Puis les parcs, là.
Il y avait tellement d'affaires dangereuses dans les cours d'école.
Ouais.
On pouvait se faire des forts dans des gros bancs de neige. On avait le droit de faire ça. On se poussait en bas des côtes. Il y avait les fameuses barres à ballons...
Les ballons poires.
Des ballons poires.
Ouais.
Nous autres, on jouait pas aux ballons poires là-dessus. On faisait de la gym. On faisait des culbutes.
Ah, tabarouette.
Puis le but, c'était de tourner le plus possible autour de la barre. Mais je peux-tu te dire que quand ça dure une récré au complet, là, que tu tournes, à un moment donné, je suis tombée à plat ventre dans la garnotte. J'ai perdu le souffle. J'ai dû retourner à la maison à cause de ça, mais on nous permettait de faire ça.
Ben même aujourd'hui, on fait attention dans les parcs pour éviter de mettre de la gravelle, justement. Puis tu sais, on met des produits comme plus souples, par exemple des copeaux de cèdre, puis des affaires de même, c'est plus absorbant. Puis je veux dire, ça, c'est un méchant bon move qu'on a fait parce que de la garnotte, hey, on a-tu tombé dans de la garnotte quand on était flou, c'est fou raide. Par la messagerie texte au 6-12-13, racontez-nous c'est quoi votre jouet d'antan que vous vous rappelez qu'aujourd'hui, ça serait vraiment très dangereux. Sur notre page Facebook, il y a quelques commentaires.
Ben oui, on salue Francine qui parle justement de la montagne de neige dans les cours d'école.
Ben oui.
T'as mis une photo sur Facebook d'un espèce de jouet qui porte le nom de baladeuse.
C'est des baladeuses. C'est une petite planche avec des poignées, là, puis il y avait des roulettes là-dessus. C'est super bon pour le développement, puis ça se fait encore aujourd'hui. Sauf que on a appris avec le temps, puis aujourd'hui, il faut prendre la baladeuse, mais pas par les poignées, mais à l'intérieur des poignées. Comme ça, nos doigts sont protégés.
OK, parce que justement, c'est ça. Il y a Ève qui nous dit « C'était dur sur les doigts. » Manon nous dit, moi, je me suis souvent pris les doigts là-dedans.
Ben oui.
Alors, si vous vous demandez de quoi on parle, allez voir ça sur Facebook.
Je fais juste y penser, puis j'ai des frissons.
Ouch! Les tyroliennes dans les parcs d'école.
Il y avait ça?
Les tourniquets. À l'école du B, c'était un poteau en métal haut dans les airs, planté dans la garnotte. Puis il y avait des chaînes qui descendaient avec une poignée.
Oui.
Puis le but, c'était de... Tu courais avec ta poignée, puis à un moment donné, tu levais dans les airs. Là.
Ouais.
Tu sais, t'en revolais là, carrément dans les airs, parce que quand il y en avait plusieurs, ça faisait un poids. Puis ça, là, c'était tellement dangereux. Il y en a une, à un moment donné, qui a lâché sa poignée, qui est tombée. Puis la poignée est allée frapper l'autre en avant sur la tête.
Oh non!
Fait que là, la petite est allée à l'école, après dans sa classe, elle était dans ma classe, elle avait la tempe là, enflée. Là.
Oh non!
Elle a été malade partout parce qu'elle faisait une commotion.
Ben oui, puis... Oh.
Puis c'est ça. Elle s'était vraiment blessée avec ça.
Ouais, fait qu'on voit plus ça dans les cours aujourd'hui?
Non, il n'y en a plus.
Destination vacances pas cher, destination vacances pas cher. On prend un billet d'avion, puis on paye pas grâce à cette personne très sournoise.
Oui, je vous raconte l'histoire de Marilyn Hartman. Elle est âgée de 69 ans. Bon, là pour l'instant, elle s'est fait arrêter, mais on l'accuse de passagère clandestine en série.
Ben voyons donc.
Alors qu'est-ce qu'elle a fait sur une période de 15 ans? Elle a pris 30 fois l'avion de façon 100% illégale.
Hey, ça, c'est deux fois par année.
En n'ayant aucun billet.
Hey, alors, voyons.
Moi, je ne sais pas comment elle a fait ça.
Hey.
Ce qu'elle faisait, puis c'était tout simple, c'est que elle passait la ligne de sécurité toujours sans carte d'embarquement. Elle réussissait à se faufiler derrière un passager en faisant semblant de l'accompagner, puis ça passait.
Voyons donc!
Il me semble que quand tu prends l'avion, c'est assez strict. On te demande ta carte d'embarquement.
Ben oui, ben oui. Ben oui.
Est-ce qu'elle mentait puis elle disait « Oh non, j'étais avec lui, il l'a sur lui. » J'ai aucune idée comment est-ce qu'elle s'en sortait. Puis il me semble qu'une fois dans l'avion, on te demande aussi, on peut vérifier ta carte d'embarquement.
On te le demande à 3-4 reprises.
Alors, est-ce qu'elle disait qu'elle l'avait oublié, qu'elle l'avait perdu? J'ai aucune idée comment elle l'a fait. Mais son truc, et je cite, c'était « avoir l'air humble et confiante ».
Ah ouais,
en confiance. Donc, probablement qu'elle avait le tour de manipuler les gens puis de faire croire, peut-être qu'elle était en détresse. Elle dit « j'ai perdu ma carte » ou je sais pas. Mais elle a fait ça vraiment souvent.
Hein?
Et là, la dernière fois, ben, elle s'est fait prendre. Écoute, là, elle a fini par se faire prendre. Elle s'est fait arrêter. Elle a passé beaucoup de temps en prison, entre autres.
Ah,
après plus d'un an en prison du côté de Chicago.
Okay.
Et là, elle fait les manchettes parce qu'elle a réussi par la suite, parce qu'elle avait un bracelet électronique à la cheville. Là, mm-hmm. Donc, elle était surveillée dans sa résidence. Puis, elle a réussi à se rendre encore une fois dans un aéroport.
Ben, voyons!
Pour fuir. Elle n'a pas réussi son stratège cette fois-ci. Donc, elle s'est fait arrêter une deuxième fois, mais elle a quand même réussi pendant 15 ans à voyager gratis.
Ben voyons.
C'est,
une idée de ses destinations un peu ou pas?
Non, c'est ça, je sais pas. Peut-être qu'elle voyageait à l'interne aux États-Unis.
Ouais, ça se peut parce que les règles sont plus lousses. Là.
Ah, moi, je sais ce que je pense.
Ouais.
Mais c'est quand même c'est un exploit illégal, mais un exploit quand même.
Écoute, faut le faire.
Ouais.
Mais tu sais, c'est sûr que quand t'as l'air convaincant, faut vraiment être bon. Parce que quelqu'un qui est honnêtement en détresse pour vrai, là, ça se peut qu'il y ait des passe-droits. Puis tu sais, c'est la bonne foi du monde. Tu joues sur la bonne foi du monde. Puis tant mieux si ça arrive, parce que tu sais, t'en as vraiment besoin. Mais elle est à ce point bonne et sournoise qu'elle convainc le monde. Je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, comment tu fais? Puis en plus, t'impliques les gens autour de toi. Un chapeau, un bravo. C'est l'histoire d'un ours, comprends-tu? Cet ours-là, c'était dans les années 80 qu'il se promenait dans une forêt du nord de la Géorgie.
OK, ça date pas d'hier.
Non, ça date pas d'hier. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je vais y arriver. Dans les années 80, en 1985, je pense que ma mémoire est bonne de ma recherche. Alors, cet ours pèse à peu près, c'est une affaire comme 80 kilos. OK, mettons 200 livres. Un ours de 200 livres se promène dans la forêt, dans le nord de la Géorgie.
Dans les années 80.
Dans les années 80, ben oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, cet ours en pleine nature tombe face à face avec un sac de sport.
Ah!
Mais l'ours trouve que ça sent drôle, ce sac de sport, puis ça sent pas forcément le swing.
Ah! Okay.
Alors, il décide de l'ouvrir, tu sais. L'ours découvre 35 kilos de cocaïne.
Oh!
Et là, je répète... L'ours pèse 80 kilos, puis il trouve 35 kilos de cocaïne. Évidemment, il se dit « Ah, c'est intéressant! » Alors, l'ours prend de la cocaïne.
Ça.
Ben oui, il mange de la cocaïne.
Ah non!
Et là, il devient extatique,
ben,
tu comprends-tu?
Là, c'est sûr.
Mais c'est pas trop long que, malheureusement, il en meurt.
Ben oui, mais c'est évident, là.
Parce que, et puis, on pense qu'il en a consommé à peu près 3-4 grammes, là. Pas tant que ça. Là,
OK.
Mais là, ça reste comme ça. L'ours meurt pas trop loin. Il y a un chasseur qui se promène, toujours dans les années 80. Popoum, 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 popoum. Puis il tombe face à un ours complètement OD, overdose de cocaïne, avec le museau bien plein, tu sais. Puis, pas trop loin, il y a le sac de sport.
Mm-hmm.
Avec le restant de la cocaïne. Le chasseur, pas fou, il se dit, OK, moi, je vais partir avec les sacs, mais je vais laisser le sac de sport là. Alors, il se sauve avec la cocaïne.
Ah, ben oui.
Puis là,
quelle bonne stratégie.
Ça en va. Et à un moment donné, il y a un passant qui voit le sac de cocaïne complètement vide. Ben, le sac de sport complètement vide de cocaïne, mais il y a quand même des traces. L'ours mort à côté, il avertit la police. La police a enquêté full longtemps sur le cas. Ça a pris des années avant qu'ils réussissent à élucider le mystère parce qu'ils se disaient, ça se peut pas. Un sac de sport rempli de coke. L'ours, il a passé un mauvais quart d'heure. Puis là, il essayait de comprendre avec un médecin légiste qu'est-ce que l'ours avait fait, puis c'était quoi ses projets, puis comment il avait réagi. Et on va en faire un film. Ce sera un film d'Elizabeth Banks. Tu sais, l'actrice, là, on la connaît, Elizabeth Banks. Ben, elle va réaliser un film avec d'autres scénaristes et producteurs qui ont fait La Grande Aventure de Lego, également Charlie et ses drôles de dames.
Mais...
Alors, ça va être un thriller mettant en vedette un ours, des personnages, puis ça risque d'être une comédie.
Mais le monsieur, l'as-tu trouvé? Le monsieur qui a pris la drogue, je veux dire, est-ce qu'il s'est fait arrêter? On n'a jamais pu le trouver, cet homme-là?
Ben non, c'est ça. Parce qu'il est disparu
donc
dans
il
la brume.
Il l'a vendu, il a fait de l'argent. Puis
certainement. Ou, tu sais, il a développé un cartel avec d'autres ours qui devaient être intéressés. Je sais pas. Mais okay. Ouais, c'est quand même une drôle d'histoire. C'est triste pour l'ours, là.
Oui.
Mais ouais, on va en faire un film. Ben. On sait toujours pas comment ça va s'appeler, mais je trouvais que c'était une drôle d'histoire à vous conter.
Vous aimez le balado de On est tous debout?
Découvrez aussi celui de l'heure du lunch avec Marilyn Jonca et Benoît Gagnon.
Consultez tous nos balados sur l'application iHeartRadio.
On est tous debout! 102.9
Rouge.
On n'arrête pas de se le faire dire. Le sport, c'est un remède à tous les maux.
Absolument. Et de plus en plus, et ça, ça se passe en Europe, en France, il y a des médecins qui prescrivent de l'exercice physique pour venir à bout de problèmes de santé, comme par exemple des maladies chroniques. Et ce qu'on a décidé de faire depuis les dernières semaines, c'est d'élargir les prescriptions de sport pour d'autres problèmes de santé, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment la clé du succès.
Ouais.
Au lieu de prescrire des médicaments, on prescrit des activités physique.
Parce que j'avais vu dans les pays scandinaves qu'il y a des médecins qui prescrivaient le sport pour combattre les problèmes de santé mentale.
Oui, absolument.
Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est la première affaire que tu t'es demandé quand tu vas voir ton médecin puis tu dis « Ouais, je file pas bien, je suis un peu triste. » Puis il dit « Tu fais-tu du sport? Tu manges-tu bien? Tu dors-tu bien? » La première question, c'est « Tu fais-tu du sport? »
C'est souvent ça.
Fait
ouais.
que, puis là, ça, c'est pas pour des maladies psychologiques, mais vraiment des maladies physiques. Là.
Oui, ben tu sais, comme par exemple le diabète ou encore, bon, toutes sortes d'autres maladies, mais c'est comme vrai qu'il y a des gens qui sont diabétiques qui, quand ils changent, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais quand ils changent leur hygiène de vie, dont en ajoutant le sport, ben souvent on voit des résultats qui sont encourageants.
Pour certains types de diabète, effectivement.
Donc, au Québec, c'est sûr que moi, je me suis jamais fait prescrire de sport, là, je pense pas que ça se fait. C'est sûr que tu peux te faire conseiller de faire du sport.
Ben oui.
Mais la prescription, ça, c'est vraiment quelque chose qui de plus en plus est populaire en Europe.
Et là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que lorsque c'est prescrit, ben ça peut être remboursé.
Ben là, on se pose la question en Europe. On se dit, ben là, si on prescrit des sports, est-ce qu'on va être en mesure de, tu sais, comme par exemple au Québec, on a l'assurance maladie.
Ouais.
Si on transpose ça au Québec, est-ce que l'assurance maladie pourrait payer pour des sports, des factures de, je sais pas, de cours de groupe ou de gym ou quoi que ce soit? Donc, c'est une question qui se pose actuellement en Europe. On est rendu là dans le raisonnement. On dit, est-ce que l'État va pouvoir payer un petit peu plus les gens lorsqu'ils s'abonnent, lorsqu'ils prouvent qu'ils font du sport, quand ils se le font prescrire?
Ben, je pense que la réflexion est légitime parce qu'au bout de la vie de quelqu'un, tu sais, si on pense long terme, tu lui payes, je sais pas moi, 100$ par, mettons par mois, là, je sais pas combien ça coûte parce que vous me connaissez.
Toi, tu vas pas au gym.
100$ par mois, je sais pas, mettons 40$ par mois, ça a-tu l'allure? Ouais, je sais pas. Mettons 50$ par mois, toute sa vie, il va au gym, mais il a jamais besoin de se faire faire un triple pontage, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est permettre à cette personne-là d'être dans la vie active encore plus longtemps? Ou encore, c'est de faire une opération grave plus tard dans sa vie, mais tu sais, ça diminue quand même sa qualité de vie.
C'est un bon questionnement. Alors, c'est un questionnement qu'on se pose là-bas. On verra si jamais ici, au Québec, on sera rendu là un jour, mais c'est intéressant.
Je sais pas combien ça coûte un accès au gym. Fait que aidez-moi par la messagerie texte au 6-12-13.
Il me semble que c'est autour de 50-90$. Ça dépend.
OK, bon, j'étais pas loin avec mon 100$.
Mais tu vois, moi non
plus, c'est un méchant bon gym. J'ai les goûts de luxe, qu'est-ce que tu veux? C'est un véritable cauchemar que je viens de vivre là, quand j'ai vu ce nouveau produit de Play-Doh, le manufacturier de pâte à modeler.
Oui.
En fait, c'est issu d'une étude quand même qui prouve que la moitié des parents ressentent un stress irrationnel quand leur enfant mélange les couleurs de pâte à modeler.
OK.
Tu sais, quand ils décident de faire, par exemple, un melon d'eau, là, puis que prennent une boule rouge ou rose, mettons, puis ils rajoutent
ensemble
une couche de verre par-dessus, là. Puis là, ils roulent la boule, puis tu sais, ils enroulent la boule, puis ils font une belle boule ronde lisse, puis après ça, ils passent le couteau dedans, puis ça fait un melon d'eau. Mais là, Mais là, ta pâte à modeler, elle scrape, là. Vous comprenez pas, ouais, la gang.
Tu peux pas empêcher un enfant de séparer les couleurs.
Tu sais bien, tu peux pas le chicaner pour
ben
ça.
Non.
Mais le parent qui voit ça aller, il y a un petit frisson dans le dos.
Un
parent sur deux. Puis moi, j'en fais partie. Okay. C'est pour ça que chez nous, la pâte à modeler, il y a juste une couleur, puis c'est lila, puis on l'a faite nous-mêmes, puis qu'elle s'arrange avec ça, puis qu'elle s'imagine qu'il y a d'autres couleurs. C'est pas vrai qu'on va en ajouter au travers.
Tu veux pas vivre ça.
Non, je veux pas vivre ça. Mais là, Play-Doh a compris que les parents sont anxieux par rapport à ça.
OK.
Et ont décidé d'inventer une canne, une boîte, un contenant de pâte à modeler qui s'appelle All Mixed Up Couleurs Variées. Alors, dans le pot de pâte à modeler, t'as déjà plein de couleurs mélangées. C'est comme
multicolore.
Plein de morceaux. Là.
Ouais.
À la limite, je trouve ça quand même très beau.
Moi, je trouve ça très beau.
Ouais, ouais, tu sais, il y en a de la rose, de la.
Le mélange est déjà fait.
Du mauve, du orange, du vert, du blanc. Le mélange est déjà fait. Puis t'es appelé à jouer avec ça puis à les mélanger. Puis justement, Play-Doh dit. On ne sait pas à quel point on a fait ça pour les enfants ou pour les parents, pour les aider à déstresser avec la vie.
Ah,
mais tu sais,
bon.
Le mal est déjà fait, fait que tu l'achètes, tu sais à quoi t'attendre.
Allez voir ça sur la page Facebook du 102.9. On vous demande si vous êtes pour ou contre la pâte à modeler aux couleurs variées.
Ouais, on salue Cathy Paquette qui, elle, visiblement, trouve ça très drôle parce qu'elle n'a pas voté ni pour ni contre, mais elle a fait « aha ». Alors, on vous invite à voter. Puis... tu sais, quand on est parent puis qu'on voit des enfants jouer, faut pas essayer de mettre de l'ordre dans ce qu'ils font. Ça fait partie de la game, puis il y a des règles non écrites par rapport à la pâte à modeler, mais à l'ordre et le désordre en général.
Ouais.
Tu sais, pour vous dire à quel point moi j'ai besoin d'ordre dans ma vie là, c'est pas long que quand ma fille a fini de jouer avec un jouet là, je lui demande de ranger, première affaire pour qu'elle apprenne à ranger, mais si elle le fait pas, je le range à sa place.
Non,
c'est clean dans mon salon là. Et quand le bordel pogne là puis qu'elle est dans sa sieste, moi je nettoie.
Non,
ça me fatigue là.
Je serais pas capable moi non plus de vivre avec le désordre. J'ai beaucoup de difficultés.
Ah oui, c'est quoi t'as vu hier, toi?
Par exemple, hier, sur Instagram, il y a une influenceuse qui voulait occuper sa petite, qui a, quoi, je pense, 2 ans.
Ouais.
Puis, elle lui a créé comme une espèce de carré de sable à l'intérieur de sa maison.
Pas de carré de sable de
sable. C'est ça, pas avec du vrai sable. Elle a pris un bac, elle a mis du riz dedans.
Okay.
Puis, elle a mis une couverte par terre. Puis là, la petite, elle s'amusait avec des récipients, à verser le riz partout.
Ouais.
Moi, là, je voyais pas le fun que la petite avait. Je voyais juste le riz qui se répandait partout. Puis je me disais, quel dégât, oh mon Dieu!
Y a-t-il quelque chose de plus gossant que ramasser du riz à balayeuse après?
Ben, tu sais, puis pourtant, à balayeuse, non, mais ça peut aller vite, là.
Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il y en a partout.
J'étais extrêmement inconfortable à regarder cette vidéo-là, puis je me suis dit, eh là là, tu sais, avoir des enfants, là, je pense que je devrais essayer de me contrôler là-dessus, hein?
Clairement.
Oui, oui.
S'il y a bien un groupe d'employés qui mérite notre admiration depuis un an, c'est ceux qui travaillent chez les épiciers, sont aux premières lignes, puis ils n'ont jamais fermé depuis le début, puis ils ont été exposés à ce virus-là également. Puis c'est pourquoi il y a des chercheurs québécois qui vont examiner en détail les effets de la COVID-19 sur les travailleurs du domaine de l'alimentation. Ça va se faire dans la région de Québec parce que c'est par l'Université Laval quand même, le centre hospitalier de l'Université Laval qui va mener toutes sortes de tests. Quand même, l'équipe a réussi à aller dénicher 2,2 millions de dollars pour suivre 450 employés d'épiceries, de bars, de restaurants dans la région de Québec et également de Chaudière-Appalaches. Ça provient du groupe de travail de l'immunité face à la COVID-19. C'est une belle subvention qu'ils ont eue. Ils vont faire des tests sanguins à 2 reprises chez ces 450 employés-là pour justement voir leur taux d'exposition au virus et aussi s'intéresser particulièrement à savoir si les gens ont développé une certaine immunité aussi face au virus tout en ne le contractant pas vraiment, tu sais, parce que on se disait justement qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Mais là, ces gens-là, est-ce qu'ils ont développé des anticorps? Puis à quel pourcentage de la population, surtout ceux qui sont davantage exposés au virus sur les surfaces, tu sais, peut-être que, justement, les gens qui sont asymptomatiques, c'est des gens qui ont contracté, entre guillemets, le virus par les surfaces avec un virus affaibli, par exemple.
Mm-hmm.
Alors, on s'intéresse vraiment à ça, puis on est allé chercher des gens qui sont directement exposés par la contamination par les surfaces. Également, ils vont en profiter pour mettre à l'épreuve un nouveau type de test rapide développé par l'UDM. C'est bien compliqué, mais ils vont l'essayer en même temps. Comme ça, ben, c'est 450 personnes qui s'exposent à des tests puis qui sont bien contents, tu sais. Puis c'est 2,2 millions de dollars. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est sûr que, tu sais, quand tu quand tu te fais tester puis suivre comme ça, il y a une rémunération qui vient avec mm-hmm. ça. Puis il y a un autre volet de l'étude qui s'intéresse aussi à l'immunité innée, qui fait en sorte que 80 % des malades n'ont pas à subir de complications, même en l'absence d'anticorps. Là aussi, c'est intéressant, puis c'est un volet dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé parce qu'on parle d'asymptomatiques sans son, mais en réalité, pas parce qu'ils ont des anticorps. C'est des gens qui ne réagissent tout simplement pas au virus.
C'est intéressant, ça.
C'est quand même, tu sais, ça vaut 2,2 millions.
Ben, c'est ça, mais l'idée, c'est de comprendre ouais. pourquoi ces gens-là n'ont ouais. aucune réaction face à la COVID, tandis que d'autres ont des réactions immunitaires qui sont
extrêmes,
très, très puissantes.
Extrêmes, ouais, c'est ouais. ça. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est la COVID-19, mais les coronavirus existent depuis un certain temps, mais sont encore méconnus. Alors voilà une belle occasion d'en savoir plus pour éviter ce genre de pandémie-là à l'avenir.
D'abord, le directeur de la santé publique au Bassin-Orange justifie sa décision de garder l'ensemble de la région en zone orange. Le docteur Sylvain Leduc cite plusieurs raisons expliquant sa recommandation de statu quo. Il mentionne notamment le fait que seulement 7 % de la population est vaccinée, qu'il y a deux cas de variant à Rivière-du-Loup. Le docteur Leduc précise également que les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec sont nos voisines directes. Le directeur ajoute que le virus est pratiquement absent des écoles actuellement et qu'il s'agit, selon lui, d'une donnée tout à fait majeure pour ce qui est de la réussite scolaire. On écoute le docteur Leduc.
Quand on veut limiter l'accès du virus dans notre région, c'est aussi pour favoriser la classe la plus présente possible et la réussite scolaire de nos jeunes.
Quant à la possibilité évoquée par plusieurs élus de scinder la région en deux, le directeur de la santé publique est catégorique.
J'ai entendu des gens manifester l'intérêt d'avoir une répartition différente par MRC. L'information que le ministère de la Santé nous donne, le gouvernement nous donne, c'est non, il n'y aura pas de morcellement. Je comprends les gens qui ont hâte. On a tous hâte, j'en fais partie. Et ça fait partie de la joute politique à laquelle je ne veux pas être associé.
Par ailleurs, le député de Matane-Matapédia répond aux commentaires du docteur Leduc sur son compte Twitter. Pascal Birubé mentionne qu'il est déçu d'entendre le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent dire que les critiques proviennent surtout des élus de l'opposition. Selon le député péquiste, le docteur n'a pas nécessairement pris en compte les élus municipaux et la population qui partagent pourtant les mêmes critiques. Pascal Birubé reproche également au docteur Leduc ses propos sur le fait qu'il ne fait pas de politique et qu'au même moment, il pointe pourtant du doigt les députés locaux de simplement poser des questions au nom de la population. Ben, les travailleurs étrangers, il y en a plusieurs dans la région, pourront faire leur quarantaine à la ferme. De nouvelles règles ont été dévoilées par la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. Les travailleurs étrangers pourront en effet faire leur quarantaine directement à la ferme s'ils ont un transport privé et sécuritaire de l'aéroport jusqu'à la ferme. Ceux et celles qui doivent utiliser un transport commercial devront suivre la même procédure que les autres voyageurs et attendre le résultat de leur test dans un hôtel approuvé par le gouvernement avant de se rendre chez leur employeur pour compléter leurs 14 jours d'isolement. La mesure entrera en vigueur le 21 mars. Les élus de la ville d'Amqui procèdent à l'appel d'offres pour la reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus. C'est cette passerelle qui se situe derrière la microbrasserie La Captive, un projet qui représente quand même un investissement majeur de 800 000 $. Selon le maire, cette passerelle commence à être dans un état tout à fait désuet. On écoute Pierre Damour.
Je pense que la durée de vie de cette passerelle-là, l'état de maturité, là, on va se le dire, là, et la structure même va être remplacée. Donc, on travaille pour une reconstruction complète. On est en attente de confirmation, mais actuellement, ça regarde de façon intéressante pour qu'on obtienne les aides de l'ordre d'à peu près 60 % pour nous aider à réaliser ce projet.
Si tout se passe comme prévu et que le financement est accepté par le gouvernement du Québec, que les travaux devraient débuter dès cet été. Et sport, le Canadien comble le retard de 2 buts pour une fois de plus perdre en prolongation 4-3 contre les Jets à Winnipeg. C'est un 8e revers en autant de tentatives pour le Canadien après les 3 périodes réglementaires. L'attaquant Philippe Danault a marqué 1 but et récolté une passe.
On a poussé solide, puis on a été chercher un gros point malgré tout. On aurait pu en avoir 2, mais solide effort des boys. Hein.
Le Canadien qui affronte les Canucks demain soir à son retour au Centre Bell.
La cérémonie des Grammy Awards a été présentée dimanche dernier. Et quand on a les codes d'écoute, on se rend compte qu'elle a été boudée par 98 % des Américains âgés entre 18 et 49 ans, qui sont les gens que l'on veut avoir lors de ces événements-là. C'est la pire audience de l'histoire des Grammy. Et on se pose des questions.
Ben, j'espère.
Parce que là, les
pourquoi
gens...
Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dépense tant d'argent?
C'est ça. Les gens qui organisent des galas, des soirées, des cérémonies aux États-Unis sont en train de se poser de sérieuses questions. Il y a entre autres les Oscars qui s'en viennent le 25 avril. Et
ça
on
va
commence...
être pénible cette année, Émilie. Oui. Écoute, on a... personne n'a vu les films, tu sais.
Ben c'est ça. Puis on commence à s'inquiéter beaucoup parce qu'on avait eu aussi des audiences décevantes pour ce qui est des Golden Globes. Et on se demande si on devrait pas arrêter de présenter ce genre de gala-là. Ben, c'est sûr que ce sont des galas qui sont peut-être moins attirants parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de directs. C'est des performances préenregistrées.
Mais même avant ça.
Il n'y a pas de foule, mais déjà que la foule n'est jamais bien enthousiaste dans ce type d'événement-là. Mais au moins, tu vois les robes. Puis tu vois les réactions. Là, c'est... Sur,
une story Instagram prenait la même affaire.
Mais là, PJ a souvent un bon point parce qu'il dit même avant ça, puis c'est vrai.
Parce que
ça fait déjà quelques années c'est qu'on remarque une baisse de l'audience. C'est juste que là, on s'est rendu compte que normalement, ce qui aurait pris peut-être 8-10 ans à descendre, a pris 6 mois avec la pandémie. Ça s'est accéléré. Ouais. Okay. Mais on se pose des questions. Est-ce qu'on va encore avoir des cérémonies du genre dans les prochaines années? C'est une bonne question à poser.
Moi, je serais pas mal plus intéressé par un documentaire d'une heure et demie. Là,
ben oui, mais t'aimes ça, les documentaires.
Oui, mais puis en même temps, tu vas chez les artistes durant leur travail puis t'exposes leur travail d'une façon différente ou documentaire. Ça pourrait être intéressant.
Tu viens de dire le mot qui va couper ton auditoire de 80%, documentaire.
Non, mais avec des artistes qui font des perfos exclusives, ça pourrait être intéressant. Je cherche des solutions.
Mais documentaire.
Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Moi, j'adore le documentaire, mais je te dis simplement que tu perds 80% des Américains, c'est clair.
Tu prends tous ceux qui sont nominés, tu les mets dans une maison, tu fais un Big Brother.
Rappelle de cette chanson de Maroon 5, She Will Be Loved, qui avait été lancée il y a de ça quelques années. En fait, j'ai pas la date précise, je pense que c'est 19 ans.
Ouais.
C'est qu'aujourd'hui, Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, souligne ses 42 ans. Et il y a 19 ans, il avait lancé cette chanson-là pour sa fête. Ça avait été un immense succès. D'ailleurs, l'album qui contient She Will Be Loved et This Love et toutes ces choses-là, le Song About Jane, ça a été lancé au début 2002. Ça a été un des plus grands succès de Maroon 5. Mm-hmm. Ils en ont eu d'autres quand même, mais cet album-là s'est quand même vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde. This Love a atteint les sommets du Billboard, du Hot 100 en 2004.
Ben, c'était le buzz à l'époque, là.
Ben oui, quand ça a sorti, ben, c'est sûr que pour certains, la voix d'Adam Levine n'est pas bonne. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec sa voix, mais il faut dire que ça détonnait quand c'est sorti à l'époque de ce qu'on entendait habituellement. Alors, il y a quand même un album qui est sorti il y a de ça quelques années qui a connu beaucoup de succès avec Maroon 5. On a la chanson Memories, entre autres, qu'on connaît, qui faisait partie de cet album-là. Et aujourd'hui, ben, pour son anniversaire, Adam Levine, on dirait qu'il a le tour pour sa fête de sortir des nouvelles. Il nous dit qu'il a l'intention de lancer un 7e album au cours des prochains mois. Il a travaillé là-dessus. Et on va avoir du nouveau matériel de Maroon 5. Puis il y a plusieurs collaborations, entre autres, annoncées aussi sur cet album-là.
Puis vas-tu faire son tatou California au laser? ou
Il va le garder, voyons!
Ah non!
Il y a le gouvernement qui a annoncé qu'on allait donner un montant de 4 millions de dollars pour inciter les Québécois à consommer de la culture. Ah. Alors ça, c'est sûr que c'est quand même un montant qui est bien accueilli. 4 millions, c'est sûr que c'est pas énorme non plus.
À la grandeur du Québec, puis avec tous les diffuseurs, c'est sûr que ça se divise vite, là.
Ça se divise très, très vite, mais bon, on va se dire que c'est au moins ça.
Ben oui.
Le but de ce 4 millions de dollars-là, c'est pour investir dans des campagnes publicitaires visant des secteurs culturels comme, par exemple, tout ce qui est les galeries d'art, les musées, les spectacles, les cinémas, la littérature, parce que on veut ramener les Québécois à la culture, parce qu'au cours des derniers mois, ben on a un peu délaissé la culture. On avait un peu pas le choix aussi avec la COVID. Il y en a plusieurs qui ont essayé d'offrir des trucs de façon virtuelle qui ont quand même fonctionné, mais bon, on s'entend que c'était pas la façon normale de fonctionner. Non. Puis là, on veut ramener les gens dans les établissements culturels. Alors, ce montant-là va être réparti par différentes associations de propriétaires de cinéma, de galeries d'art, de diffuseurs. Et ces gens-là vont avoir un montant d'argent qu'ils vont pouvoir investir dans de la publicité chez eux.
Ah, c'est bon!
Pour être en mesure d'attirer les gens. Alors, c'est déjà un pas de fait. Nous, je vous rappelle que ça fait quand même quelques semaines qu'on est en mesure de présenter des spectacles à Rimouski. D'ailleurs, je vous invite à consulter lespectacle.com. Il y a des artistes de grands noms, des spectacles qui vont se booker extrêmement vite, qui sont annoncés pour le mois d'avril, dont les trois accords, entre autres. Alors, c'est au spectacle.com que vous allez pouvoir vous procurer des billets. Tout indique que Marie-Pierre Morin va reprendre ses des activités professionnelles de plus en plus. Bon, en décembre dernier, on apprenait qu'elle avait repris les tournages pour la deuxième saison de la série La Faille. On a appris la fin de semaine dernière qu'elle allait être de retour dans un projet, en fait, dans un film de Marie-Lou Wolfe, le film Arlette, oui. Où elle a eu le rôle principal après avoir passé deux auditions. Et on apprend aussi qu'elle sera de retour pour ce qui est de sa série documentaire sur la chaîne Z, Mais pourquoi? C'est une série qui avait été très populaire au cours des dernières années où elle se plongeait dans différents univers pour essayer de les vivre. On l'a vu, ouais. Par exemple, dans le fitness, dans l'univers de la fertilité, ces choses-là. Donc, cette fois-ci, il y a un de ces épisodes-là qui va porter d'ailleurs sur la façon de se relever après un échec vécu dans l'œil du public. Alors, j'ai hâte de voir, elle va peut-être aborder la question là, de ce qui s'est passé avec Safia Nolin aussi au cours des dernières années. Alors, il y a des projets en cours pour elle. Elle n'a pas fait de sortie médiatique, là, Marie-Pierre Morin. Elle n'a pas accordé d'entrevue depuis son retrait des projecteurs en juillet dernier, mais on pense que ça pourrait bien être, évidemment, là, dans les plans pour les prochaines semaines aussi. Ça sent tranquillement la finale hein, pour ce qui est de Big Brother Célébrité. Ouf. Avec les gens qui restent en place. Il y a une alliance qui commence à se défaire, celle de François Larbert, Jean-Thomas Jobin et Kim Clavel. Jean-Thomas Jobin semble être indécis quant à son avenir.
C'est parce qu'il y a tendance... il a fait une erreur, c'est faire une promesse à Camille. Exact. Puis il veut la tenir, mais ça joue contre lui dans son alliance de trois. Là.
Et là, Rich, lui qui s'en va bien là, avec ses lingots d'or.
Ben oui, il est déjà rendu à deux, devient une menace sérieuse. Oui,
c'est ça. Puis, en tout cas, c'est drôle parce que Rich a toujours passé un peu...
comme le niaiseux de la gang qui avait pas c'est de stratégie, ça. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est payant.
C'est
là.
Très payant pour lui jusqu'à maintenant. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que le but, c'est d'avoir quatre lingots pour se rendre directement en finale. Ouais. Et il y a autre chose aussi à surveiller au cours des prochains jours et surtout ce soir, 18h30.
Oui, ouais, absolument, parce que, écoute, moi, la production sait que je suis un fan incontestable. Moi, j'adore Big Brother Célébrité.
Donc,
j'écoute tout. Le
accès.
Podcast sur iHeartRadio. Okay, okay. Le 7 sur 7, je déjeune en écoutant ça le matin. Évidemment, le soir, je manque pas ça. Et là, ben, il m'envoie des petits courriels une fois de temps
t'as
en
des
temps.
Scoops,
ouais, ouais, j'ai des scoops. Ce soir, il y a Kim, évidemment, qui va profiter de la cérémonie du veto pour passer un message et ça risque de passer de travers.
Oh!
Ouais, elle règle ses comptes en public. Et également, Camille va faire une sieste ce soir qu'elle risque de regretter longtemps.
Hein?
Ouais, ouais, elle s'endort à quelque part, là, puis il y a quelque chose qui se passe pendant, ça a l'air.
Ah, ben
pis,
voyons.
Ouais, 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 elle va s'en vouloir. Est-ce qu'elle va le savoir tout de suite qu'elle a fait une sieste qui a joué contre elle? Ça va falloir nous écouter. Écoutez, nouveau ce soir, 18h30 pour Big Brother Célébrité. Martin, à surveiller dans l'actualité?
Ben, on n'est pas la région qui détient le meilleur pourcentage de la population vaccinée. Hein?
Non, non.
Là, ça, on espère que ça va s'améliorer. Donc, ça débute la vaccination de masse aujourd'hui à Rimouski, à l'école, à la salle Raoul Roy de l'église Saint-Pie-X. La PDG du 6, Isabelle Malo, s'en présente. On vous tient au courant là-dessus. Et c'est aussi question de l'avancement là, de ce projet Omega Condo Urbain. Vous avez peut-être vu la bâtisse. Là,
oui.
Donc, dans le secteur du boulevard. Ce matin, le groupe qui s'occupe de ça, les promoteurs, entre autres le C-Hôtel Navigateur, vont faire un point de presse pour parler de l'avancement des travaux.
Oui, parce que ça monte,
effectivement. Oui, tout près de la Banque nationale,
ouais.
Pour être plus précis.
Et demain, c'est vendredi, donc ce sera le quiz malpropre. À demain. Oh yeah! On est tous dehors!